France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Ça veut dire que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Lily Boulanger ou Kaya Sarriao, rares parmi le public sont ceux qui peuvent donner des noms au-delà de ce quatuor de compositrices. Et pourtant, les musiciens, les musiciennes sont de plus en plus nombreux à réaliser qu'on ne leur a pas raconté toute l'histoire de leur discipline. Ils sont à l'origine donc d'initiatives qui permettent aujourd'hui de restituer à ces pionnières de la composition la place qui leur est due dans l'histoire de la musique. Comme cela se fait en bande dessinée d'ailleurs, connaissez-vous Alice Guy, première réalisatrice, scénariste et productrice de l'histoire du cinéma ? On ne mesurera jamais assez l'importance de donner à nos filles des modèles de femmes créatrices, libres et affranchies. Aujourd'hui, bonjour Catel.
Bonjour.
Quel plaisir d'accueillir une dessinatrice dans cette émission. Je crois que c'est une première depuis le début de l'année.
Vraiment.
Ici, avec Georg Friedrich Händel, un extrait de cette sonate pour flûte à bec jouée par Michel Apetri, l'Académie de St. Martin in the Fields, ou bien l'ensemble de chambres de cette académie. Du moins, votre choix musical, une sonate pour flûte du 18e siècle. Je suis très curieuse, Catel. Pourquoi ?
Parce que c'est une musique, Händel en particulier, et pour flûte à bec encore plus précisément, que j'ai joué moi-même. Car avant de faire du dessin, et de la bande dessinée plus particulièrement, j'ai commencé par faire des études musicales. J'étais en musique-études au conservatoire de Strasbourg toute mon enfance.
Et comment êtes-vous tombée là-dedans ?
Moi, je suis tombée là-dedans par ma maman, en fait, qui est une grande, grande musicienne. En fait, toute ma famille, hein, tout le monde fait de la musique. Mon père fait du violon, ma mère fait du piano, ma sœur de l'orgue, mon frère du violoncelle. Et c'était surtout l'impulsion de ma mère qui voulait vraiment une famille de musiciens, qui est tombée amoureuse, en dehors de grande histoire d'amour avec mon père, de Jean-Sébastien Bach. Et donc, on a vécu toute notre enfance avec Jean-Sébastien Bach.
À la maison.
Voilà. Et voilà, très vite, elle nous a fait faire des instruments de musique. Et puis.
C'est vous qui avez choisi la flûte ?
Alors, pas du tout. Ça s'est fait un peu par hasard. J'ai eu des cours de flûte comme tout le monde à l'école. Et puis, un ami à elle qui était professeur de flûte à bec, baroque, est venu à la maison. Et puis, je me suis présentée comme ça au conservatoire parce que j'étais plutôt habile en flûte. J'ai réussi le concours et je suis rentrée aux horaires aménagés des classes de Strasbourg.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'apprentissage ? Dans la pratique de cet instrument-là, qu'a-t-elle ?
Mais surtout, moi j'avais des facilités techniques, je dirais. Donc, c'est un instrument facile, ça se transporte. C'est une variété assez unique, la flûte à bec, parce que c'est assez peu connu, finalement. Enfin, tout le monde connaît ça à l'école, mais d'une manière assez péjorative. Et finalement, on découvre qu'il y a tout un monde avec la musique baroque, et notamment en faisant des ensembles. Moi, j'ai participé à plusieurs ensembles de musique baroque. Très tôt, hein, j'étais très jeune, à 12-13 ans, nous emmenaient faire des concerts dans des mairies, des églises, des salles des fêtes. Et j'ai eu le plaisir très vite de me rendre compte que c'était formidable de jouer à plusieurs et devant un public. Et ça a été une expérience incroyable. Et puis très, très loin de l'expérience scolaire habituelle. Là, on gérait notre emploi du temps, on partait en troupe. C'était une nouvelle vie, la vie d'artiste. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie, finalement, dans le fond, de ne pas avoir une vie conventionnelle.
Y a-t-il un concert qui vous a marqué plus particulièrement de cette période-là, Catel ?
Non, moi, j'ai pas des grands souvenirs. C'était des petits concerts. Hein. C'était quand même, on était des enfants et on se produisait... devant un petit public aussi. Mais en revanche, j'ai des grands souvenirs des concerts de ma mère qui faisait partie d'une chorale, la chorale Saint-Guillaume à Strasbourg, qui était très connue. Maintenant, c'est ma sœur qui chante à la Fratola. Donc, j'ai participé un peu à tous les concerts que donnait ma mère dans cette chorale, notamment la Passion selon saint Matthieu de Bach. Chaque année, on avait droit à une nouvelle version. Et j'y allais même un peu à reculons à un moment donné, parce que j'étais un peu gavée de musique, à vrai dire.
c'était un peu trop pour moi.
Voilà, c'est pour ça que je me suis un peu réfugiée aussi dans le dessin et que la musique classique, j'y retournerai bien plus tard dans ma vie. À un moment donné, j'ai vraiment fait une parenthèse où j'ai arrêté complètement d'en écouter par rejet, en fait.
Et vous y retournez aujourd'hui, notamment par le biais de cette émission. Bah, écoutez,
ah oui, bah depuis longtemps aussi.
Oui,
hein,
bien
même.
Sûr. Par cet extrait que vous avez choisi pour nous, le tout début du Stabat Mater de Pergolèse. Julia Semenzato, Lucille Richardot, l'ensemble Résonance, Riccardo Minasi ici à la direction, le tout début de ce Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolèse, le choix de notre invité, la dessinatrice Catelle, avec cette mélodie qui accroche immédiatement l'oreille, quelle beauté.
Oui, c'est magnifique. Je ne lasse jamais de l'entendre, de l'écouter, notamment par la chorale où chante ma sœur Brigitte, la Fratola, qui chante
à Strasbourg.
À Strasbourg, toujours. Non, qui fait le tour de France d'ailleurs, qui fait des concerts. Et puis, il faut aussi dire que ça va faire partie de la bande-son du prochain film de Xavier Beauvois. voit, qui est un ami. Le film Albatros, c'est le personnage, c'est l'histoire de la rédemption de ce personnage à qui il arrive un drame. Et cette musique sur ces images où on voit ce gars sur un bateau, un voilier partir au large, mais on ne peut pas s'empêcher de pleurer.
Ça prend une autre dimension.
Complètement. J'ai presque redécouvert la musique classique il y a une vingtaine d'années avec les films, en fait. Avec
c'est
Barry
comme ça
Lyndon,
que s'est passé, la réconciliation.
Voilà, avec Tous les matins du monde, toutes ces musiques, d'ailleurs baroques toujours, hein, mais m'ont vraiment réconcilié et m'ont replongé dans ce qui fait mon ADN finalement, parce que j'étais bercée dans cette musique depuis l'enfance et maintenant elle me revient.
Alors ici, ce Stabat Mater raconte les douleurs de la Vierge devant son fils crucifié. On a ces voix de femmes hein, ici, qui peuvent aussi rappeler celles de la mère dans cette version. Hein. Avant, c'était chanté par des castrats ou des enfants. Votre mère, je crois, avait construit un orgue dans votre maison. C'est une histoire incroyable.
Oui, elle a fait construire un orgue dans notre maison près de Strasbourg. Un petit orgue, mais quand même. Voilà,
mais quand même
voilà, pour qu'on puisse tous jouer ensemble, et notamment du Bach.
Notamment, on y revient, le grand amour pour Jean-Sébastien Bach. Alors, peut-être pas du Eric Satie sur l'orgue, quoique on peut tout essayer, mais ça dit, vous avez choisi pour nous une version pour piano, comme cet instrument pour laquelle elle a été écrite, cette Gnossienne numéro 3. On écoute Anne Kefelek. La troisième Gnossienne d'Eric Satie, jouée ici par Anne Kefelek. Votre choix musical, qu'a-t-elle, je pense, qui a accompagné la préparation de vos repas à une certaine période.
Exactement, c'est ma fille aînée, Julie, qui fait du piano. Mes deux enfants font du piano, la cadette fait de la guitare. Mais Julie, pendant le temps de préparation des repas, le soir, durant toutes ces années de collège-lycée, nous jouait du piano. Et en l'occurrence, les Gnossiennes de Satie, le soir, c'était très agréable.
Très apaisant.
Très apaisant. Son beau-père qui cuisinait adorait ça. Et donc, elle nous faisait plaisir. Et elle continue de jouer toujours du piano, contrairement à sa mère.
Vous voilà, ne jouez plus jamais de la flûte?
Très rarement, parce que j'ai très peu le temps. Maintenant, le dessin m'a complètement absorbée. De faire des bandes dessinées de 300 pages, c'est quand même chronophage. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais certainement reprendre ma flûte un de ces jours.
Non, mais je compte sur vous. Et puis, vous nous inviterez au concert, j'espère, Katel, un jour.
Bien sûr.
France Musique, Saskia Deville.
Katel, j'évoquais en tout début d'émission ces compositrices, ces femmes, parfois oubliées ou souvent oubliées par l'histoire, n'ayons pas peur de le dire. J'avais envie de vous faire découvrir une compositrice, peut-être vous la connaissez, peut-être non. Pauline Viardot, voici Aïe Louli. Cécilia Bartoli, accompagnée par Myung-Woon Chung, ici pour ce titre « Aïe Louli » de Pauline Viardot, une femme au destin exceptionnel, cantatrice adulée dans toute l'Europe, compositrice, chanteuse, pianiste, professeure de chant, reconnue et admirée par les plus grands de ses contemporains, Clara Schumann, Delacroix, Flaubert, Liszt, Berlioz, Tchaïkovski ont été ses admirateurs. C'était une amie proche de Chopin, de George Sand. Elle avait un salon où elle recevait tous les plus grands artistes de son temps. Cette femme, je le disais, au destin exceptionnel, pourrait-elle vous inspirer une bande dessinée, Katel, vous qui aimez mettre en lumière ces femmes oubliées par l'histoire ?
Oui, ce que nous appelons les clandestines de l'histoire, oui, elles pourraient tout à fait en faire partie, ces femmes qui ont été finalement très importantes dans l'histoire, mais pas retenues dans les livres, et qui finalement, enfin, on les redécouvre bien après, et on se rend compte de leur importance, et de la force de leur production, de leur créativité.
Alors j'évoquais cette nouvelle bande dessinée, ce biographique, comme vous les appelez, qui vient de paraître chez Casterman en tout début d'émission. Alice Guy, cette femme, première réalisatrice, première productrice de l'histoire du cinéma, première scénariste aussi. Vous étiez auparavant attaquée à Kiki de Montparnasse, à Olympe de Gouges, à Joséphine Baker notamment. Comment est-ce que vous les choisissez justement, ces femmes ?
Bien, ce sont des femmes qui ont, comme je vous le disais, marqué l'histoire, dont on se rappelle peu ou mal, et qui ont en même temps une vie très romanesque, qui racontent aussi une période de l'histoire. Là, on parlait avant de j'avais choisi la Gnossienne de Satie, mais Satie, c'est vraiment le début du siècle, avec Kiki de Montparnasse, les années folles, mais aussi Joséphine Baker, l'entre-deux-guerres. Donc ça raconte vraiment des périodes et des sujets. Bon, là, Alice Guy, c'est le cinéma. Olympe de Gouges, ça a été la Révolution française, c'était autre chose. Mais c'est re-raconté, en fait, c'est la contre-histoire par l'histoire des femmes.
Et par le dessin aussi.
Par le dessin, bien entendu, avec le scénario, c'est le rapport texte-image.
Effectivement, et vous êtes accompagnée pour cela par José-Louis Boquet. La bande dessinée Alice Guy est donc à retrouver en librairie, donc une parution Casterman, je le disais, c'est une formidable bande dessinée que je vous conseille chaleureusement, chers auditeurs. Katel, on va se quitter avec un monument du répertoire des violoncellistes. Tout a commencé avec Bach et votre maman. On va d'ailleurs terminer cette émission avec lui, ça tombe bien. Henri de Marquette au violoncelle que vous avez choisi pour nous.
Bien, merci, vous me faites un grand cadeau là parce que pour moi c'est une bulle de réconfort. Je suis quand même tombée dans le chaudron de la musique classique et Henri de Marquette plus précisément parce que c'est celui qui accompagne les textes de Anne Goscinny, ma grande amie, la fille de René Goscinny, le père d'Astérix et Obélix, le créateur, et elle lui écrit ce texte hommage après son décès.
Tout est question de chaudron et de puissance alors.
Bien sûr, et bien sûr accompagné par Henri de Marquette avec ses remarquables suites pour violoncelle.
Dont nous écoutons le prélude de la deuxième suite en ré mineur. Merci beaucoup Katel d'être venue nous voir et merci à toute l'équipe, Émilie Vallat, Pauline Boisaubert, Stéphane Touvenin. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une très belle journée sur France Musique. Thank you.
réécouter sur francemusique.fr.